L'intercompréhension et le plurilinguisme. En fait, je vais parler davantage de l'intercompréhension proprement dite, mais l'intercompréhension fait partie d'une question qui s'appelle le plurilinguisme et sur laquelle on va revenir. On est dans un monde dont vous n'avez peut-être pas remarqué qu'il a changé, puisque vous, vous êtes né dans ce changement et vous avez maintenant des choses qui ne sont pas aussi nouvelles pour vous que pour moi. Mais pensez à mon enfance, j'ai 60 ans, et pensez à la vôtre, il y a un tas de choses qui entre-temps ont disparu et un tas de choses qui sont apparues. Et donc, on a changé forcément, puisque tous les systèmes sont interdépendants, on a forcément changé de paradigme, c'est-à-dire, ça c'est une vieille notion, le changement de paradigme, hein. On dit que c'est Bergson qui l'a inventé. C'est-à-dire que si on continue à penser dans un ancien modèle et qu'on vit dans un nouveau modèle, il y a forcément des choses qui ne marchent pas. Alors ce changement de paradigme, il a eu lieu, et notamment, il y a des ensembles qui n'existaient pas et qui existent aujourd'hui. Exemple d'une Europe multilingue, avec 23 langues officielles, 60 langues régionales et 450 langues du monde présentes sur son sol de manière significative. On ne l'avait jamais pensé comme un ensemble de cette nature, puisqu'avant, l'Europe était la réunion, la juxtaposition de pays monolingues. Exemple, la France. Voilà pourquoi les gens de ma génération sont davantage, n'ont pas beaucoup de connaissances en langue. Je parle la grande majorité. Évidemment, vous en trouverez certains qui sont des polyglottes, mais c'est des cas. Alors, autre chose qui est apparue dans ce changement de paradigme, c'est le droit humain. Et par rapport au droit humain, un d'entre eux qui serait celui de parler sa langue, d'avoir le droit de parler de sa langue, quelle qu'elle soit, d'avoir le droit de s'exprimer dans sa langue. C'est une violence culturelle de dire aux gens « votre langue, c'est de la merde, il faut que vous appreniez telle langue pour votre scolarisation, pour apprendre à lire, il faut apprendre en même temps une autre langue, par exemple, ou et pour vous exprimer, pour qu'on vous comprenne dans le monde, il va falloir que vous écriviez dans une autre langue. » Vous voulez me parler? Vous voulez? Non. Si vous voulez dire quelque chose, vous pouvez intervenir, hein. À ce moment-là, je vous donne le micro, tout ça. Ensuite, bon, ça devient un droit humain. Je vous laisse simplement considérer le fait qu'il y a des plus en plus de groupes pour la défense des langues régionales et autres, qu'il y a eu des grands exemples dans le monde, comme la langue catalane, qui pourrait aujourd'hui ne plus exister si les Catalans n'avaient pas revendiqué d'une manière assez agressive, etc., leur culture et leur langue différente de celle du castillan. Et pas seulement ça, mais on fait tout un fromage de la disparition des langues. Nous avons même une spécialiste à Lyon 2, Colette Greenwald, qui s'est illustrée sur cette question des langues en disparition. Donc, on est sensible, le monde est devenu sensible d'une autre manière. Qu'est-ce qu'on en avait à foutre que les langues disparaissent il y a seulement 2 siècles? La preuve, c'est que pour un pays comme le Brésil, par exemple, lorsque les Portugais sont arrivés en 1500, il y avait 1500 langues, facile à se rappeler. Aujourd'hui, il y en a 200. C'est quand même beaucoup. Mais il s'est passé quelque chose entre les deux. Et ça, ça semble s'infléchir. Donc le citoyen qu'on imagine sur l'Europe ou sur le monde, puisqu'il y a aussi des citoyens du monde, voilà une expression qui n'existait pas autrefois, ce citoyen, il est différent, et une des différences, c'est qu'il a forcément une vie dans plusieurs langues. Peut-être que je rêve un peu, mais disons que on pense que sa vie, il y a beaucoup plus de langues dans sa vie aujourd'hui de tous les citoyens. Donc voilà ces premiers points qui me semblent incontournables. Mais dans ce système, comme je vous ai dit, ça peut être décalé et ça peut coincer quelque part. Notamment, ça coince du côté des institutions, la nôtre, mais dans le monde entier c'est pareil. On continue d'enseigner les langues d'une manière qui date beaucoup. Alors, forcément, ça conduit les publics qui sont dans ce besoin d'apprendre en dehors du système. Nous avons fait une enquête à Lyon 2 l'an dernier auprès de 600 étudiants en leur demandant quelle était pour eux la meilleure manière d'apprendre les langues. À plus de 90%, ils répondent en allant vivre dans le pays. Mais ça, vous le répondriez aussi comme ça. C'est toujours la réponse que j'ai eue. Mais à aucun moment, ils ne répondent que c'est en suivant des cours. À aucun moment. Donc c'est un peu désespérant ce que je vous dis, surtout si vous destinez à être prof de langue, mais je le suis moi-même. Alors, ça m'autorise peut-être ce genre de fantaisie. Et donc les institutions continuent, mais d'une manière majoritaire, je ne dirais pas d'une manière homogène et totale, à enseigner comme on aurait pu le faire au XVIIIe siècle, par exemple. D'ailleurs, je peux vous citer un écrivain de la fin du XVIIIe siècle, qui, c'est d'ailleurs, c'est Louis-Sébastien Mercier, si je ne me trompe pas sur son nom, qui disait « Il est aussi impensable d'apprendre les langues en regardant un fonctionnaire public parler que d'apprendre la pyrotechnie en regardant un feu d'artifice. » Donc déjà, il y a des gens qui pensaient que ça ne pouvait pas marcher au XVIIIe siècle. Et donc, au XXIe, on continue à faire pratiquement la même chose. Ça veut dire qu'on en a encore pour longtemps, que peut-être au XXIVe, au XXVe siècle, il y aura encore des gens qui gesticuleront devant d'autres qui seront assis devant eux et qui leur demanderont d'apprendre des langues comme ça. Or, toutes ces choses-là peuvent être repensées. Alors, une des choses qu'on peut... Donc, peu d'innovation dans les institutions, il y en a, mais l'innovation serait comprise comme quelque chose qui se généralise. Or, je passe à la deuxième diapo, on parle de plurilinguisme à tout bout de champ. Les organismes qui s'occupent de langues au niveau européen ou les organismes de recherche qui s'occupent de langues ont très souvent le mot plurilinguisme dans leur titre. Éducation et plurilinguisme, par exemple, à l'INRP. Bon. Donc, il faudrait savoir ce que c'est que le plurilinguisme. Et surtout, tout à l'heure, j'ai parlé de l'Europe multilingue. Donc, l'Europe multilingue, c'est donc qu'elle n'est pas plurilingue. Bon. Comment allons-nous nous accorder sur ces notions? Alors, évidemment, on peut dire comme on veut. On peut remplacer plurilingue par multilingue. C'est pas un drame. Mais disons qu'on a, à force de pratiquer ces mots, on a résolu de leur donner un sens un peu différent. Le plurilinguisme s'appliquerait aux personnes et le multilinguisme aux espaces géographiques. Je ne dis pas de manière systématique, mais plutôt aux espaces géographiques. Ainsi, par exemple, nous sommes tous plurilingues. Eh oui, c'est-à-dire que même lorsque nous ne parlons que notre langue maternelle, nous avons des notions plus ou moins étendue dans d'autres langues, dans un nombre plus ou moins grand. C'est très difficile d'y échapper quand même aujourd'hui. Et même on a des représentations de ces langues qui nous permettent soit de les comprendre un peu, soit de les comprendre complètement, soit de dire quelques mots. Bon, c'est le cas de l'anglais. Bon, par exemple, quand, les Français qui ont tous étudié l'anglais, ben bon, ils parlent pas, parfois ils ne parlent pas, mais ils peuvent dire deux ou trois trucs. La plupart du temps, ils ne parlent pas. La plupart du temps, ils ne comprennent pas, mais ils peuvent quand même avoir un petit niveau. C'est-à-dire, ils peuvent avoir des notions. Eh bien, ça, c'est pris en compte dans la définition du plurilinguisme. On peut l'étendre à des groupes de personnes. Il y a des groupes de personnes qui peuvent fort bien partager des connaissances dans des langues, et chaque personne a des connaissances différentes, mais tout le monde se comprend. Ou disons que un nombre de langues appliqué sur un groupe permet à ce groupe de communiquer de manière interne. Bon, on est dans un pays monolingue, je sais. C'est difficile de voir ces situations au niveau national. Mais les pays monolingues, ce n'est pas la majorité dans le monde. Il y a des Bon, on a des pays comme la Suisse, est-ce qu'il est plurilingue ou est-ce qu'il est multilingue? Eh bien, il est les deux. Disons qu'il y a des langues que des gens parlent et les autres n'ont aucune notion. Vous savez qu'il y a 4 langues officielles en Suisse. Après, il y a certaines personnes qui peuvent se déplacer dans l'espace complet, qui ont des notions, donc ceux-là, ils sont plurilingues. Donc, il est à la fois plurilingue par une partie de sa population et multilingue en tant qu'organisation nationale. Mais la Belgique, on a un peu la même chose avec moins de langues. Si je reste en Europe, de toute façon, le plurilinguisme n'est pas très effectif au niveau des pays. Par contre, sur le continent africain, c'est un fait. Il y a des zones plurilingues où des gens ont à leur disposition plusieurs langues. Curieusement, l'Amérique du Sud n'est pas plurilingue, c'est des pays monolingues. Et bien sûr, il y a des gens qui ont 2 langues parce que c'est leur langue d'origine plus la langue officielle, mais il n'y a pas trop d'espace plurilingue. Ceux-là, ils peuvent communiquer, en général, ils communiquent entre eux avec leur langue maternelle et avec les autres avec la langue officielle. Mais ils ne trouvent pas dans les autres la connaissance de leur langue maternelle. Vous comprenez? Donc on est dans une situation multilingue ou monolingue d'une manière officielle. Bon, ça peut vous paraître un peu confus si vous n'avez jamais réfléchi à cette situation, mais c'est un peu l'idée à retenir. Surtout, l'idée à retenir, c'est que ça a changé et qu'on considère que le plurilinguisme est en vedette dans le haut niveau des instances politiques. Au niveau des formations, il n'est pas en vedette. Il y a des expériences, ni plus ni moins, dont justement je vais vous parler. Alors, c'est là qu'on va donner une définition la plus simple possible de l'intercompréhension. Et puis, je mets à côté le mot intercommunication qu'on dit quelquefois. Mais on dit aussi communication réciproque, communication croisée, compréhension réciproque, compréhension croisée. Déjà, communication, c'est un mot que vous entendez à propos des langues parce qu'on dit « Ah oui, mais là, c'est une langue de communication. Je vais faire de l'anglais de communication. » Des choses comme ça. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va demander des choses comme « Quelle heure est-il »« Combien ça coûte ?» Des choses où on ne s'implique pas soi-même. Et où la culture qui est associée à la langue va avoir vraiment un petit rôle. On va essayer de réduire son rôle. Donc ça, c'est un peu l'idée de la communication. Eh bien, je pense que c'est un peu du temps perdu parce qu'on n'arrivera pas. D'abord, il n'y a aucun intérêt à se débarrasser de la culture. Et puis, on n'y arrivera pas. À un moment ou à un autre, il va bien falloir qu'on s'exprime, qu'on dise ce qu'on a sur la patate. Et donc là, c'est plus de la communication. On va demander d'être compris. Vous voyez la différence qu'il peut y avoir entre communiquer et comprendre ? On comprend quelqu'un, on comprend sa culture, on comprend le monde. On reçoit plus qu'une information. C'est plus que de l'information qu'on reçoit. C'est un problème qui nous est posé de respecter les gens ou de ne pas les respecter. Disons que le problème nous est posé. Le problème d'imaginer, le problème de tortiller le cerveau pour savoir à quoi correspond chez nous une chose qui ne se traduit pas. Parce qu'il y a des choses qui ne se traduisent pas. Parce que ça n'existe pas. Bon, donc là, comprendre, c'est plus que communiquer. Et voilà pourquoi on parlera d'intercompréhension. Bien qu'au début, il y a eu des hésitations. Et maintenant, je vous ai dit que ça faisait des entrées timides au niveau de l'éducation. Effectivement, vous avez parlé du cadre européen commun de référence en langue. Déjà, on vous en a parlé. Eh bien, il y a un autre cadre qui existe, qui s'appelle le cadre de référence pour les approches plurielles des langues et des cultures. Donc, ce cadre, il est disponible sur Internet. Et lorsque vous irez sur ma page, il suffira de cliquer sur le lien pour avoir accès au document.